Juste une petite remarque sur, sur le texte de Michelet où Shlomo HaMelech parle aux paresseux. Le Rav Volbeh, il a lu le texte ici et il dit pourquoi on parle à un paresseux. A priori, c'est pas très... Michelet, ça ne s'adresse pas à un paresseux, ça s'adresse à Monsieur Tout-le-Monde, ça s'adresse à son fils, etc. Au fils de Shlomo HaMelech. En fait, lui veut dire qu'en réalité, ces qualités qui sont dites ici, donc, qui sont présentées comme des qualités, on ne va pas rentrer dans le problème là, de la fourmi, les leçons qu'il faut qu'il apprenne, que le paresseux doit apprendre. En vérité, on est tous des paresseux. Parce que ici, paresseux, c'est à entendre de la manière suivante. En réalité, ces qualités-là, comme toutes les qualités, on les a toutes. Tout le monde a toutes les... On a toutes les qualités et aussi tous les défauts, en quelque sorte. Mais, en ce qui concerne, par exemple, les qualités, il y a toutes sortes de midot, toutes sortes de qualités. Et simplement, le poids spécifique de chacune des qualités est différent. C'est différent selon les personnes. C'est-à-dire, l'un il est plus fort en chesed, l'autre il est plus fort en, gmil chassadim, l'autre en limoud, celui en emouna, etc. Mais il y a de tout. Et la paresse veut seulement ici, on veut dire ici que c'est par paresse que tu développes pas tout ce que tu as. En vérité, on te demande pas des choses que tu n'as pas. Donc si je les ai et que je les développe pas, c'est en fait, on pourrait se demander, mais pourquoi, qu'est-ce que c'est comme démarche? Shlomo HaMelech, il appelle ça de la paresse. C'est de la paresse de ne pas développer les qualités qu'on a. Il faut étudier ces qualités et les développer. Savoir ce dont on est capable et développer chacune des qualités qu'on a. On a tout, donc il faut développer évidemment. Là où, ça c'est toujours cet enseignement que donne Rav Volbeh, c'est que là où on est bon, on doit exceller. Si tu es bon sur un certain point, tu te dois d'exceller dans ce domaine. Parce que ça veut dire que d'une certaine manière, si vous voulez, en portrait chinois, par exemple, si tu étais une Mida, tu serais cette Mida-là. Donc c'est toi, en quelque sorte. S'il y a une mitzvah qui me parle particulièrement, cette mitzvah-là, il faut que je la fasse parfaitement. Pas que je me contente de faire ce qu'il faut faire. La halakha, le shulchan aruch, il dit qu'il faut faire comme ça. Mais ça, c'est le minimum syndical. Il faut, oui, tu dois exceller dans ce domaine-là. Et ce qui est important, c'est qu'en excellant dans ce domaine-là, ça tire tout l'édifice vers le haut. Parce que l'idée est qu'évidemment, bon, je dis que ça tire, mais en réalité, c'est une espèce de levier plutôt. Parce qu'on ne peut pas travailler sur soi si on n'a pas le fameux levier d'Archimède. Quoi. Bon, tu veux, il faut un levier. Et le levier, c'est quoi? C'est les qualités. C'est grâce à tes qualités que tu peux travailler sur tes défauts. Si quelqu'un, c'est pour ça qu'il dit toujours que quand quelqu'un commence à travailler sur soi et qu'il essaye de faire un bilan, il faut faire en premier le bilan des qualités. Parce que si tu fais le bilan de tes défauts, tu risques d'en avoir quelques-uns et tu te trouves au fond du trou et tu ne peux pas remonter. Puisque tu connais que tes défauts, tu ne sais pas sur quoi tu peux t'appuyer. Et donc il faut d'abord, et c'est souvent plus difficile, mais c'est pas si facile non plus de clarifier les défauts parce que Yitzhara il est d'accord qu'on se... Oh oui, c'est ça ton défaut, mais en vérité c'est pas ça le vrai défaut. Mais tu travailles là-dessus, ça ne me dérange pas, parce que sur le point important, tu ne travailles pas. Donc c'est aussi, il faut faire attention à ne pas se coller les étiquettes, de façon générale, ni à soi ni aux autres, coller les étiquettes trop rapidement. Ça demande beaucoup de temps jusqu'à ce qu'on sache exactement quelles sont mes faiblesses et quelles sont mes qualités, etc. Il faut s'observer longuement. Peut-être, lui, il dit qu'il faut même tenir un espèce de petit journal dans lequel il faut... Évidemment, il ne faut pas marquer « Aujourd'hui, je me suis mis en colère. » Parce que peut-être que ce n'est pas la colère qui t'a fait... Ce n'est pas la colère, c'est qu'il y avait la jalousie, ou, etc. C'est ça l'amida qui était... Bon, alors ça s'est exprimé de cette manière-là, mais l'amida sur laquelle il fallait travailler, c'était la jalousie. Si tu dis « Je me suis mis en colère », tu n'en seras rien. Par contre, il faut noter... Voilà, la situation s'est présentée comme ça et comme ça et comme ça. Voilà comment j'ai réagi. Tu ne mets pas de... Tu ne dis pas que c'était la jalousie, tu ne dis pas non plus que c'était... Et après, quand tu regardes, quand tu as suffisamment de matériaux, tu vas pouvoir poser un regard sur ce qui se passe et tu vas te voir à l'œuvre. Alors à ce moment-là, tu pourras dire, tiens, il semble que ce soit ça. Si alors maintenant, ça fait 3 ans que j'observe et que ça tourne toujours autour de ce genre de choses... Bon, je dois avoir un problème avec cette chose-là. À ce moment-là, on peut commencer à travailler sur cette chose-là. Bon, juste ça, c'était juste une remarque. On va continuer sur le guillemets.
Excusez-moi, la paresse, elle se situe à quel niveau de cette recherche ?
Au niveau de cette...
Une fois que l'amida...
Non, il y a déjà éventuellement une paresse qui fait que je ne vais pas y regarder plus près. Je suis bien. Je suis content de moi. Et puis après, il y a une paresse, c'est que même quand je m'aperçois de quelque chose, en fait, je ne fais pas ce qu'il faut pour le réparer. Mais la première chose, c'est... tu ne développes pas, c'est-à-dire tu ne vas pas regarder quelles sont tes qualités, etc. Tu ne travailles pas réellement. Donc, le commencement du travail, c'est d'aller faire un constat. Si on ne sait pas ce qu'il faut faire, le problème du diagnostic, c'est toujours un grand problème. Mais sans diagnostic, on n'a pas beaucoup de chances de pouvoir travailler.
D'où est-ce que cette paresse, c'est la volonté, c'est tout ça.
Mais de façon générale, la paresse, elle vient d'où? Je crois que ça... Il me semble que ça a à voir avec l'inertie. L'inertie, le matériel, c'est inerte. Il y a de l'inertie. On n'est pas... Il faut se bouger, quoi. Comme on dit en français aussi, il faut que je me bouge, quoi. Parce que la tendance, elle est à l'inertie.
Oui, mais justement, on est dans le matériel.
Donc le matériel, c'est ce qui nous incite à l'inertie. Donc il faut se faire violence, d'une certaine manière. Sortir de ce matériel. Bon, il faut y mettre du spirit. Il faut essayer de faire... jouer le spirituel pour que le matériel ne prenne pas trop d'importance. Parce que si on reste dans le matériel, alors c'est l'inertie complète.
Il y a des données qui sont innées.
Il y a
des données qui sont innées.
Tout à fait. Mais d'après ce qu'on dit, c'est tout est inné. Ça veut dire... mais le problème, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ce qui t'est donné? Chacun naît avec une distribution spécifique de toutes les midotes.
Est-ce que l'inertie s'est laissée couler douce ou les coups?
C'est cela couler douce, oui.
Non, laissez-les couler douce. On laisse couler douce ou les coups. On attend que ça se passe.
Oui, mais si tu attends que ça se passe, ça risque pas de... Il se passe à rien, quoi. L'eau qui coule, c'est pas toi. C'est sûr que si on travaille pas, ça bougera pas. Et il y a une tentation très forte de ne pas travailler, de ne pas... Parce que la Torah, c'est un bouleversement. Ouais. On a déjà dit souvent, c'est Shiurim, qu'une Torah qui ne serait pas bouleversante n'est pas vraiment une Torah. Alors, le prototype du bouleversement opéré par la Torah, c'est le fait que quand on a entendu les paroles de la Torah par Hachem, on a été projeté en arrière et on est mort. Donc c'est vraiment le bouleversement maximum. Seulement après, on a ressuscité, on a commencé. Mais la Torah, elle doit te bouleverser. Si elle ne te bouleverse pas vraiment, Ça veut dire qu'en vérité, tu as étudié la Torah pour n'y trouver que ce que tu savais déjà. Si c'est pour trouver confirmation de ce que je sais déjà, on perd son temps. Hein. Il vaut mieux lire un bon roman. Bien. Alors, Guimel, c'est le 3, donc page 104. De nouveau, Pasouk dans Michelet. Zé Shéamar HaKatouv. Donc, disait Shéamar HaKatouv, on est toujours dans le commentaire de Shoftim Shotrim Titen Lecha B'chol Sha'arecha, dans ce verset de Dvarim, enfin, c'est la semaine dernière. Il dit, ben, il faut entendre ce verset-là avec, on va essayer de l'éclairer avec le verset de Michelet. C'est un peu comme un système de, c'est comme si vous imaginez, vous avez quelque chose, vous ne savez pas ce que c'est, eh bien vous allez le bombarder pour voir comment il réagit. Vous allez le bombarder avec de la lumière, vous allez le bombarder avec des chocs, avec ça, pour voir, ça va vous donner une idée de ce qui se passe. Comme si c'était des sondages. On veut savoir aujourd'hui si la Lune a un cœur. Est-ce que c'est comme la Terre? Est-ce qu'elle a un cœur? Parce que si on dit que c'est un morceau de la Terre, c'est attaché, elle devrait être comme la Terre, avoir un cœur. On ne sait pas. Alors les Américains, ils ont envoyé des sondes qui vont effectivement... Bon, on va sonder pour voir si, pour savoir s'il y a un cœur. En sondant toutes sortes d'endroits, toutes sortes de situations, donc, on va voir, essayer de savoir si effectivement la Lune a un cœur. Donc, pour savoir ce qu'on a devant soi, il faut le sonder, il faut le faire réagir. Et bien, les matériaux avec lesquels, c'est intéressant, les matériaux avec lesquels on va faire réagir, c'est Michelet, Teilim, etc. On bombarde avec ces vêtements, ces versets-là, pardon. Là, on bombarde avec ce verset. C'est Tzedaka ou Mishpat. Évidemment, c'est un verset qui contient les éléments qui se trouvent dans le verset qu'on essaie de clarifier. C'est Tzedaka ou Mishpat. Nifrar l'Hashem Mizava. Je l'ai déjà fait avec vous, ça? Ah bon. Asso, faire la tzedaka et le mishpat, c'est nifrar, c'est-à-dire c'est choisi, c'est-à-dire c'est préféré par Hachem au sacrifice, au zevar. Zevar, c'est la shrita d'un korban. Et le midrash fait remarquer, il n'est pas dit dans le verset que Asot Tzedaka ou Mishpat, c'est que Zevar. C'est équivalent à un sacrifice. Enktivkan. Et la mi Zevar. C'est meilleur que le Zevar. C'est mieux que les corbanotes. Alors c'est intéressant parce que quand on dit sacrifice, on n'entend pas vraiment les choses, mais on a déjà dit plusieurs fois que la notion de corbanote, c'est. Ça n'a rien à voir avec le sacrifice. Le mot korban, il est construit sur la racine kuf rejbet, qui veut dire karov, qui veut dire proche. Donc ce sont des processus d'approche. Un korban, c'est un processus d'approche qui est mis en œuvre par les hommes lorsqu'ils se sentent personnellement ou lorsque la Torah leur dit qu'ils sont éloignés. Quand on fait une faute, on est éloigné d'Hachem, ou bien on peut se sentir, ça ne marche pas, ça ne va pas, je ne me sens pas proche d'Hachem, eh bien je peux éventuellement décider de faire quelque chose qui me rapprochera, une procédure de rapprochement. Alors par le biais, la Torah a dévoilé que, peut-être les hommes, peut-être que c'est... Alors, voilà, il y a une possibilité, tu vas... Comment on fait pour se rapprocher de quelqu'un? On va lui faire un cadeau, quoi. On va s'approcher, on va donner quelque chose. Ah, et c'est très compliqué, parce que ce qu'on donne, c'est ce qu'Hachem nous a déjà donné, donc à quoi on joue exactement, mais peu importe. Voilà, c'est comme ça. Et jusque-là, on pouvait penser, bah, puisque le nom Corban, il est donné à l'animal ou à la crêpe qu'on apporte, d'accord, ça veut bien dire que c'est ça la procédure, on pourrait dire, bah, c'est la procédure par excellence de rapprochement. Puisque vous utilisez le mot Karov, procédure de rapprochement, pour faire, pour déclarer ça, pour vous dire ça. Et maintenant, Shlomo HaMelech, il vient et il dit, il y a mieux. Il y a mieux que ça. Quelque chose qui ne porte pas le nom, un nom qui est dans sa racine, Koufreshbet, qui ne dit pas le rapprochement, mais il y a quelque chose qui est meilleur encore. Tzedak, Asso, Tzedaka ou Mishpat, faire la Tzedaka et le Mishpat, c'est Nifrar. Nifrar, c'est la chanson Bachar, choisi, d'accord ? Hachem nous a choisi, donc c'est quelque chose de plus choisi, c'est une façon de dire, c'est préférable pour Hachem à la procédure standard qui consiste à apporter un zévar, apporter un korban. Et le Midrash appuie, il dit, c'est pas que c'est équivalent, c'est mieux que Ketzad. Alors le Midrash va s'attacher à essayer d'expliquer en quoi et comment c'est meilleur. D'accord ? C'est, qu'est-ce que ça a de mieux ? D'abord, il faut. Il est clair que si on veut parler de meilleur, etc., il faut d'abord établir d'une certaine manière que c'est comparable. D'accord ? Si, on ne peut pas dire de quelque chose qu'il est meilleur, etc., si c'est même pas comparable. Alors, il va y avoir une. Il faut qu'on compare. Alors, on va prendre des points de comparaison. À Korbanot, loi yukrevim noagot ela bifne abayit. Les sacrifices, on ne les approchait, on ne pouvait les approcher que quand il y avait le Bet Hamikdash, bifne abayit, quand il y a le Bet Hamikdash. Alors que quoi? Avant la tzedaka et adinim, la tzedaka et les dinim. Vous voyez ici, on a dit mishpat, on a remplacé par dinim, les lois, enfin rendre la justice en fait. Nohagot sont des choses qui sont praticables bifnei abayit quand il y a le Bet Hamikdash ou quand il y a le shelo bifnei abayit, mais aussi quand il n'y a pas le Bet Hamikdash. Donc il y a une supériorité qui pourrait se dire comment? Comment est-ce qu'on va dire cette supériorité? C'est que, on pourrait dire, le Tzedaka et Mishpat, c'est universel, disons, en temps. Bon, ça se pratique tout le temps. Tandis que les Korbanot, il y a un laps de temps bien précis dans l'histoire juive où on a pu pratiquer ça.
C'est
Tzedaka. Oui, c'est. Asso, Tzedaka ou Mishpat. Tu l'as pas, dans toi?
Si, si, mais. Enfin, comment on passe de Tzedaka à. Parce que le Midrash, il fait switch avec ce qu'on a dans. Ce qu'on a dans la Torah, dans Mishpatim. Dans Shoftim.
Non, mais parce que. Shoftim, c'est la chose Mishpat. Oui. Shoftim, Shotrim, Titen Lecha, Misharecha. C'est marqué, Veshaftu et Ha'am, Mishpat, Tzedek. T'as Mishpat et tu as Tzedek. Tzedaka, c'est la chose Tzedek. Ça veut dire que ce qui nous est. Je vous ai donné des juges. En fait, le je vous ai donné. C'est vous vous donnerez, mais on en a parlé la dernière fois. Le je vous ai donné, c'est je vous ai ordonné de vous donner. Ça s'appelle je vous ai donné. Le shaftu, quelle est la fonction de ces juges? Shaftu et ta'am, mishpat tzedek. Mishpat de tzedek, voilà ce qu'ils doivent faire. Alors le Midrash dit ben, faire le mishpat et tzedek, c'est tzedaka ou mishpat. Bon, ici, c'est présenté comme deux choses. Mishpat Tzedek, on ne sait pas très bien si c'est deux choses ou une seule chose. A priori, Mishpat Tzedek, c'est. Tzedek est un adjectif ici. Tandis qu'ici, Tzedaka et Mishpat, c'est deux substantifs. Bon, pour l'instant, on va faire comme si on pouvait, traiter les deux de la même manière. Et ensuite, ce que j'ai fait remarquer, c'est que. Au lieu de Mishpat, dans le texte, il dit Dinim. Mais c'est la même chose. Le Mishpat, c'est le jugement. Comment le jugement? C'est l'application des Dinim, des lois. Noagot bifne abayt, vishelo bifne abayt. C'est intéressant, mais il y a quand même tout de suite une remarque, c'est que, puisque c'est meilleur, pourquoi est-ce qu'on nous a donné les korbanot? Pourquoi la Torah, quand on a fait une faute, etc., pourquoi elle ne nous dit pas, ben, il faut pratiquer, la réparation, ça consiste à faire tzedaka ou mishpat. Fais de la tzedaka. Pourquoi est-ce qu'il faut que je, pourquoi la Torah, elle me dit, quand tu as fait une faute, tu apporteras un korban, etc. Puisqu'il y a mieux, pourquoi elle me donne ça? D'accord? Là, on est dans Dvarim. On est dans ce que Moshe Rabbeinu dit. D'accord? C'est pas marqué Shoftim. Bon, il y a Mishpatim, tu dois donner des Mishpatim, mais dans Parashat Mishpatim, dans Shemot. Mais là-bas, c'est pas marqué Shoftim Veshotrim Titen Lecha. Là-bas, la Torah, elle parle, voilà, la loi de ceci, la loi de cela, etc. La Torah, elle ne dit pas là-bas comment on doit pratiquer. Non, il trouve.
Au début, il dit trop quand il donne les conseils à mon cher Rabbeinu.
Oui, il dit toi, tu vas juger, etc.
Oui, il faut faire des 10 et tout ça, c'est une forme de chotrine.
Oui, non, bien sûr qu'il y a une organisation. Ouais. Mais on ne présente pas ça comme on dit voilà, Moshe, il juge et il trop lui dit tu vas te fatiguer avec tout système, toute cette histoire-là, si tu n'auras pas le coup, il faut que tu délègues. Et il lui dit, Ve'ela Mishpatim, Asher Tassim Lifnehem, voilà les lois que tu vas poser devant les Bnei Israël. Alors qu'il dit, c'est voilà toutes les lois. Alors tu as raison, Yitro lui a dit, il faut que tu délègues, il faut organiser les choses. Alors, pourquoi effectivement, on va garder cette question, pourquoi ne nous avoir pas dit, quand tu fais une faute, tu prends du mal, fais de la tzedaka. Pourquoi on me dit d'apporter des korbanotes? Oui, mais dans cette période-là, il y avait les autres aussi. C'est marqué ben bifne abayit, ben shelo bifne abayit. Si on avait dit ça fonctionne quand il n'y a pas, on ne peut pas porter les korbanotes. Voilà, j'ai un tahrif, je peux échanger, j'ai un équivalent, en quelque sorte. Non, c'est mieux. Et c'était mieux déjà quand on a reçu les korbanotes. Quand on nous a dit d'apporter les korbanotes, mais pourquoi on apporte les korbanotes alors? Toi, elle aurait dû dire, d'après ça, telle et telle faute, ça c'est 3 euros, 5 euros, etc. De toute manière, la dépense, elle y est. Quand tu dois acheter un korban, tu vas bien dépenser. Mais c'est pas de la tzedaka. Au lieu d'acheter un animal qu'on va tuer, donne l'argent à un pauvre.
C'est pas suffisant. Chacun n'est peut-être pas suffisant. C'est peut-être mieux tout en étant insuffisant.
Ça voudrait dire c'est mieux mais en étant insuffisant.
Bah, c'est pas parce que c'est mieux que ça le remplace complètement. C'est tout en restant comparable. C'est-à-dire qu'on peut les comparer les deux, c'est-à-dire que c'est tous les deux une manière de se rapprocher d'Hachem, Mais les deux doivent être se complètent quelque part. Je ne sais pas si je suis clair.
J'entends ce que tu dis, je ne comprends sûrement pas.
Mais comment on passe donc dans la paracha, c'est grosso modo, c'est une justice juste. Et là, après, on passe à la tzedaka qui n'a rien à voir avec la justice juste.
Enfin, bien sûr que si. La justice, le tzedek, c'est le même mot.
Oui, c'est le même mot, mais la tzedaka, c'est.
La tzedaka, c'est quoi? C'est faire en sorte que ça devienne juste. Il y a des injustices, si on peut parler comme ça, et nous sommes en charge de réparer l'injustice. C'est pas de la charité. C'est les goyim qui ont inventé la charité. Chez nous, ça n'existe pas, la charité. Vous cherchez quelque chose, Thierry? Oui, vois devant vous le bleu, là. Quel fromage, vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, de varie? Prenez les valeurs sûres, oui. Ah ben donc, oui. D'avoir à faire autre chose. Toujours dans la démonstration de la supériorité de Asso Tzedaka ou Mishpat. D'avoir à faire à Korbanot en Mechaprin et là le Shogeg. Va Tzedaka va Dinim Mechaprin ben le Shogeg ben le Mezid. Les Korbanot, un Korban. Ne vient laver la faute, la chose kapara, oui. Kapara, c'est comme Yom Kippour, c'est le lavage de la faute. On lave la faute, on efface la faute. Et ça ne marche avec un korban que si la faute a été commise, le shogeg, par inadvertance. Mais une faute qu'on a commise en toute connaissance de cause, volontairement, on ne peut pas apporter un korban. Tu ne peux pas apporter un korban. Et parce que le korban serait insuffisant, en tout cas. En tout cas, il n'est pas mechaper. Ça ne marche pas. Donc non seulement ça ne marche pas tout le temps, mais même quand ça marche, ça ne touche qu'une toute petite partie des fautes. Les fautes légères, disons. Faites pas shogeg. Alors que tzedaka mishpat, ça nettoie tout.
Les fautes délibérées, c'est ça que vous
voulez. Y compris les fautes délibérées.
Mais, parce que, mais en même temps, c'est logique, parce que les fautes délibérées, d'un coup, si en faire une faute, combien ça me coûte? Ça
paraît. Enfin, ce serait. Mais là, quand si tu veux apporter la tzedaka et faire le mishpat, tu veux dire la même chose, non? Ça marche pas.
Pas tout à l'heure, je suis pas tellement d'accord. Je trouve que ça me paraît plus juste de rééquilibrer les plateaux de la balance quant à la justice que de dire je veux dérayer une ligne blanche sur la route, dites-moi combien ça coûte, j'en achète de l'un coup.
Non, le problème, ce problème-là des indulgences qu'on pourrait acheter,
oui.
Si vous voulez,
oui,
c'est un problème qui est inhérent à la notion de Corban, c'est vrai.
Oui.
Il y a un risque. Dès qu'il y a une procédure, si vous voulez, ça vous n'échappez pas. Vous êtes là, votre voiture est coincée entre deux voitures. Hein. Vous avez une voiture puissante coincée entre deux voitures, vous êtes pressé. Vous avez assez d'argent, voilà. Ça va me coûter, ça m'est égal. Mais ça, on peut toujours. C'est celui qui. Quand, il va dédommager. La question de savoir est-ce qu'il y a une avéra? Est-ce que. Mais ça, c'est une grande question dans Baba Kama, dans les problèmes de dédommagement. Est-ce qu'il y a une avéra à causer un dommage? Ou est-ce que c'est simplement il faut réparer? Parce que d'où est-ce que tu. C'est pas marqué que tu fais. Il y a une avéra, tu fais une faute. Après, il explique qu'en fait, tout ça, ça vient, c'est de l'interdit du vol. Quelque part, c'est volé. Parce qu'autrement, tu pourrais dire, bon, ça m'est égal, moi, je fais ce que je veux, je paye.
Si je vole de manière volontaire, je ne dois pas venir à Corban?
Non. De manière même sur le vol par inadvertance.
là, ça lui amène juste.
De quoi?
Bah, le. Et donc, je me fais attraper. C'est
une
amende,
la punition. Oui, le problème, c'est est-ce que j'ai transgressé un interdit? Par exemple, est-ce que c'est équivalent à transgresser l'interdit du vol plus l'amende? Donc, quand tu voles, tu transgresses, c'est clair, ouais, quelqu'un vole. Il lui prend sa brebis ou sa Mercedes ou etc. Il prend quelque chose, oui. Il transgresse. Et puis maintenant, on va évaluer le dommage. Alors, il va devoir payer. Si on l'a attrapé, s'il a fait tchouva, il s'est dénoncé, il paiera seulement ce qu'il avait pris. Ou bien il restituera, et s'il ne peut pas restituer, il donnera la contre-valeur. Mais si on l'attrape, il va déjà devoir payer deux fois. Il paiera la contre-valeur et un knas, une amende, égal au montant de ce qu'il a dérobé, ce qu'il avait dérobé. Et si ce qu'il a volé, c'est par exemple une brebis, il va payer quatre fois. Et qu'il a mangé la brebis ou qu'il l'a vendue, il paiera quatre fois la valeur. Non, cinq fois, pardon. Cinq fois la valeur. Quatre fois la valeur. Et si c'est une vache, il paiera quatre fois.
C'est jamais un
corban. Non. Vous savez pourquoi on paye 4 ou 5 fois?
Parce que c'est écrit en
droit. Ouais, tu m'as bien eu, c'est vrai. Mais on explique quand même. Marais l'explique. Parce que c'est à l'envers, n'est-ce pas? Sur la brebis, tu payes 4 fois, et sur la vache, tu payes 5 fois. Oui, c'est ça. On avait expliqué que la brebis, éventuellement, il l'a portée sur ses épaules. Donc, comme il a dû s'abaisser à porter la brebis, donc il l'a déjà payé de cette manière. La vache, a priori, il ne l'a pas portée sur ses épaules. Donc il paye 5 fois. Il a pris, il a fait un méchoui et tout, il paye 4 fois ou 5 fois. Un méchoui de brebis 4 fois, un méchoui de génisse, de veau, etc., de vache, 5 fois.
Il y a une histoire aussi, si c'était une bête qui était dédiée au temple, c'est encore plus...
Oui. Là-bas, il doit rembourser autant, 20% de plus à chaque fois.
Et là, c'est à qui qui en... C'est pour le Betamigdash
Donc, quand c'est volé au Betamigdash, oui. Et autrement, c'est à la personne qui a été volée.
Il reçoit, il ne le traite pas comme un corban.
Il reçoit de l'argent. Il achètera ce qu'il voudra, ce dont il aura besoin. Donc, les corbanotes, non seulement ça n'agit qu'un laps de temps bien précis, une période bien précise dans l'histoire, mais en plus, même quand ça n'agit que sur le shogeg. Alors que tzedakah mishpat, c'est me rappeler sur tout. Ben le shogeg, ben le mezid. D'avoir à faire autre chose encore. A corbanot en noagim et la patartonim. Les corbanotes, c'est quelque chose qui fonctionne seulement dans le monde d'en bas, en quelque sorte. Atzdaka va dinim noagim ben be'elyonim ben betartonim. La tzdaka et le mishpat, ça fonctionne même dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas comme dans le monde d'en haut. Ça, il faudra qu'on explique un peu. Ensuite, d'avoir à faire encore, הקורבנות הן נוהגים אלא בעולם הזה, והצדקה והדינים נוהגים בין בעולם הזה, בין בעולם הבא. Dans ce monde et aussi par rapport au monde à venir. Ces deux choses-là, on ne sait pas. C'est une façon de dire que c'est supérieur, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça reste encore un peu à expliquer.
C'est pas la même chose que l'idée de Tartanini
et Lyon. Non, si c'est. Visiblement pas, oui. Mais vous avez raison, il faut qu'on explique. Bon, les commentateurs, ils s'arrachent un peu les cheveux, là, pour savoir de quoi ça cause. Maintenant, Amar Rav Shmuel Bar Nachmani. Besha'a, Shi'amar lo HaKadosh Baruch Hu le Natan. Lorsque Hachem a dit à Nathan, Nathan c'est le prophète au temps de David HaMelech, c'est le prophète qui a fait des remontrances à David concernant Bathsheba, etc. Il lui a dit, Lech ve'amarta el David avdi, va et tu diras à David, mon serviteur, Ko amar Hachem, ainsi a parlé Hachem, lo ata tivne li habait la shavet. C'est pas toi qui construira la maison dans laquelle je vais résider. Donc, vous savez bien que c'est David HaMelech qui a eu l'idée de construire le Beth Amikdash, et Hachem lui dit, c'est pas toi, tu construiras pas. Pourquoi? Ki lo yashavti bevait min hayom asher eliti et Israël ad hayom hazeh, vaye me ohel el ohel u mishkan, le mishkan, c'est en jusqu'alors, tu as eu une super idée, parce que j'avais pas de vrai bail, j'avais pas de vraie maison, de vraie résidence, aujourd'hui, depuis le moment où j'ai sorti les Bnei Israël d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu de vraie résidence. J'ai été simplement d'une tente à l'autre et d'un mishkan à l'autre. Voilà. Et du coup, puisque les gens, en fait, ils viennent lui dire pourquoi est-ce que. C'est à cause de sa faute, quoi, a priori que c'est pas lui qui va construire. Alors, le Midrash dit que du coup, les gens, sachant que c'est pas David qui allait construire, Kol Mishayam Vakesh le Kalel et David, tous les gens qui voulaient maudire David, qu'est-ce qu'ils faisaient? Maya Oset, qu'est-ce qu'ils faisaient? Aya Omerlo, il lui disait, Tov Sheibane Abait, ce serait bien qu'on puisse construire le Beth Amikdash. Ça veut dire. Vivement que tu crèves, pour qu'on puisse construire le Beth Amikdash. Teda lecha ma David Omer, et d'où est-ce qu'on le sait ça? C'est parce qu'on sait de ce que David répondait. David dit dans Tehilim, il dit, Samarti beomrim li Beth Hashem nelech. Je me suis réjoui quand on m'a dit, allons dans la maison d'Hashem. Mevakshim li lomar, sheinata bone. En fait, ils veulent m'embêter parce que c'est marqué chez un taboné, c'est pas toi. Amarlo HaKadosh Baruch Hu Chayecha. Malgré tout, Hachem lui a dit Sha'a achat mechayecha ein ani mechaser. Sache que je jure que je ne t'enlèverai pas une heure de ta vie pour ça. C'est vrai que tu auras toute ta vie, même si en fait. Ça va retarder la construction du Bet HaMikdash, donc la construction de la résidence d'Hachem dans le monde. D'où est-ce qu'on sait ça? C'est marqué chez Nehemar, qui imlehu yamecha, tes jours seront remplis, c'est-à-dire tu feras le plein de tes jours, veshachavta et avotecha, et tu reposeras auprès de tes ancêtres, à ce moment tu mourras, vakimoti et zaracha acharecha, et je ferai tenir ta descendance après toi, ceux qui seront vraiment les descendants, qui descendront vraiment de toi, et je fortifierai, j'installerai vraiment la royauté de son descendant, de ce descendant. Donc c'est Shlomo HaMelech. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Hatzdaka ve'adinim she'ata oseh. Et il lui a dit, pourquoi tout ça? Parce que la tzedaka et les dinim que tu fais, chavivin alai mi bet amigdash. La tzedaka et les dinim que tu fais me sont beaucoup plus chers que le bet amigdash. Beaucoup plus précieux. D'où est-ce qu'on sait? Parce que c'est marqué, vaï David, osé mishpat ou tzedaka. Et c'est marqué, maou mishpat ou tzedaka, le cholamo. Il faisait mishpat ou tzedaka à tout son peuple. Abiyuda et Ram Nechemia commentent, ils disent, Chadamar, aya dan et adin, mezake et azakai, ou mechayev et achayav. Il jugeait, David jugeait, c'est l'époque où les rois avaient encore le droit de juger, ils étaient dans le tribunal. Mezake, vous vous souvenez qu'au temps de Hashmonaïm, descendant, Yanaï, à partir de Yanaï, d'Alexandre Janet, comme on dit en français, les rois n'étaient plus jugés et ils jugeaient plus donc. Parce que Yanaï, il avait tué tous les Chachamim, mais il n'avait pas voulu se présenter devant le tribunal. Donc on a décidé que c'est. On a vu dans Sanhedrin, chapitre 2. Tout le monde était là, donc. Donc il jugeait, il condamnait celui qui était à condamner, il innocentait, déclarait innocent celui qui devait l'être. Et maintenant, si celui qui a été condamné à payer n'avait pas d'argent pour payer, David noten michelo. David lui donnait la tzedaka. Et bien, mishpat ou tzedaka. Il faisait mishpat et après tzedaka. Amar le Rav Nechemia, imken nimtzeta mevi et Israël lide ramayut. Il dit, mais si on fait comme ça, on amène les Juifs à tromper, quoi. Maou, mishpat ou tzedaka. Moi, je dis que mishpat ou tzedaka, il faut l'entendre autrement. Ayadan et adin, mezake et azakai, mechayev et achayav. Ça, c'est mishpat ou tzedaka. Shayamotsi et agazel, miyado. C'est déjà la tzedaka, la justice. Il jugeait et il prenait, c'est celui qui avait volé, qui avait pris indûment à l'autre, il allait, il déplaçait les choses. C'est ça, déjà la tzedaka. Amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël, banai, oil vekach adinim chavivim lefanai, et vous zehirim bahem. Puisque vous voyez que les dinim, combien les dinim me sont précieux, alors faites très attention à appliquer les dinim. Bien, alors, donc tout ce paragraphe vient pour montrer pour montrer donc la supériorité de tzedaka au mishpat. Sur la fin, vous avez remarqué qu'il y avait cette inversion. On parle de mishpat ou tzedaka. Alors que dans Michelet, on parle de tzedaka ou mishpat. On avait expliqué mishpat ou tzedaka. Pourquoi est-ce qu'on a renversé l'ordre ici? Parce que David, il jugeait, puis ensuite, il faisait la tzedaka. Et du coup, l'autre lui a dit, tu pousses les gens à ruser, quoi. Les gens, ils vont se déclarer ensuite, ils vont faire n'importe quoi, puis ensuite, ils diront, je peux pas payer, et voilà, ils auront gagné. Quelqu'un va voler. Puis après, il sera insolvable, d'accord? Alors c'est David qui va lui donner, il va rembourser l'autre, il aura reçu, mais lui, il aura gagné. Bon, il a volé 100, et Hachem lui donne 100 pour qu'il rembourse. Donc celui qui a été lésé, il a reçu ses 100, mais lui, il a aussi gagné 100. Parce que les 100 qu'il avait pris, il les garde, puisqu'il a remboursé avec l'argent que David lui a donné. Donc on ne peut pas dire que cette démarche qui a l'air extraordinaire, Abdelkhima, il dit, attention, là. On coupera. Ça amène les Bnei Israël, c'est étonnant. Les Bnei Israël vont. C'est sûr que s'il y a une possibilité, les gens vont tromper. Les gens vont ruser avec ça. On ne peut pas leur donner un instrument pareil sans qu'ils l'utilisent pour le mal. C'est très généreux, c'est magnifique, etc. Mais ça ne peut pas être ça le sens de Mishpat ou Tzedaka. Et donc Mishpat ou Tzedaka, c'est que le Mishpat est un Mishpat de Tzedaka, c'est-à-dire, non seulement David ne se contentait pas de déclarer bon, celui-là il a volé, voilà, celui-là est voleur et l'autre est lésé, mais on mettait les shotrim. Shotrim allait, les huissiers allaient, ils saisissaient dans les biens du bonhomme. On saisissait ses biens, donc ils ne pouvaient pas cacher. On débrouillait pour qu'on allait saisir. On ne se contentait pas de sa déclaration, j'ai pas. Et donc ça c'est la tzedaka. C'est Mishpat ou Tzedaka. Bon, alors revenons sur notre affaire ici.
C'est Tzedaka, parce que moi j'ai tendance à mettre dans la partie charité. Mais c'est-à-dire, si il y a un malfrat qui est insolvable, j'ai le droit de lui donner de l'argent et de faire entendre ma sœur. Parce que moi, ça me paraît plutôt.
C'est pas que tu vas lui donner de l'argent. L'argent que tu donnes, en vérité, il n'est pas à lui, il n'est pas pour lui. L'argent que tu lui donnes, c'est pour qu'il puisse, que l'autre soit remboursé.
Oui.
Non, si lui, il n'a pas, alors quoi? Parce qu'il n'a pas, alors l'autre va être lésé. C'est David Amelar qui dit, non, moi, je considère que je veux donner l'argent à celui qui a été lésé, mais je veux le donner par le biais. Il s'assurait, évidemment, il ne lui donnait pas de l'argent, il disait, tu peux faire ce que tu veux avec. Il dit, voilà, je te donne cet argent, viens, on va aller maintenant le donner à celui qui est. À celui auquel tu dois le donner.
Dans ce cas-là, on peut envisager une caisse qui dédommage la victime.
Oui, mais dans ce cas-là, ça, on n'aura pas effectué l'opération condamnée et le condamné paie. Il y avait c'est un peu formel, mais il voulait que le mishpat passe, en fait. C'est formel. C'est sûr qu'on pourrait très bien décider que. On ne juge même pas les gens, tu as été lésé, on te paye. C'est comme quand, disons, on t'a piqué ta carte bleue, d'accord, ben, a priori, ils vont te recréditer ce qui t'a été piqué. Mais celui qui a volé, pour l'instant, il a volé.
Oui, mais la banque, elle peut toujours attaquer.
Pardon ?
Celui qui a volé, la banque, elle peut toujours aller chercher et lui demander des sous.
Elle va aller le chercher, mais là-bas aussi, c'est ça le problème. C'est que quand David le faisait, bien entendu, il le faisait quand le type n'était pas solvable. C'est pas que David donnait à quelqu'un qui avait commis, qui avait causé un dommage, il lui donnait systématiquement l'argent pour qu'il le paie. C'est marqué, si lui il l'avait pas, il n'a pas.
Oui, il n'a pas créé pour autant un fonds de soutien pour voleurs nécessiteux.
Non, il n'a pas fait le fonds de soutien. Il permet à celui qui a été condamné de payer. Parce qu'à la limite, quand tu lui as donné, c'est à lui, donc il a payé. Lui, il peut dire, voilà, moi j'ai payé. Devant le ciel, tout s'est passé parfaitement bien. Alors, ce qu'on dit, mais il y a le risque de ruse. Rav Nechemia, il dit, non, on ne peut pas lire ça. On ne peut pas dire que c'était ça que David Amelar faisait, parce que s'il faisait ça, ce n'est pas vraiment de la tzedaka. C'est pousser les juifs à la ramaout. Tu pousses Israël, mais c'est assez fort ici, il dit. C'est quoi, on ne peut pas avoir un comportement, le roi ou les juges ne peuvent pas avoir un comportement qui va générer de la ramaout, qui va générer de la ruse.
D'accord pour ça, mais il y a aussi, bon, pas dans l'exemple du vol, mais je crois qu'il y a des cas où le jugement est fonction de la surface financière du coupable. Il n'y a pas des cas où, dans les dommages, tout ça, c'est en fonction de combien a le.
Non.
Non.
Le Olevi Yored, ça existe seulement dans les corbanotes. Il existe certains corbanotes, ça s'appelle Olevi Yored, qui montent, qui descendent en fonction de la surface financière. C'est-à-dire, il y a un certain type de corban où celui qui a de l'argent, il doit apporter un animal. Et celui qui n'en a pas, il doit apporter une crêpe. Mais s'il est riche et qu'il apporte une crêpe, il n'est pas yotze. Donc c'est son problème. Tu veux apporter un kapara. Qui tu trompes? Tu trompes toi-même, c'est tout. C'est tout. Mais pas, ça c'est par rapport au ciel et entre le ciel et lui. Enfin, entre lui et le ciel. Donc, si tu veux, si tu t'imagines que tu vas tromper et que tu as. Voilà. Donc, il n'y a que toi qui sera lésé dans cette affaire. Mais quand il y a un tiers, c'est pas comme ça.
Enfin, bon, j'ai bien entendu qu'il y a le problème de l'incitation éventuellement aux autres d'aller dans le mauvais sens. Mais quelque part, j'ai l'impression que, certes, la justice passe, et après, David indemnise comme indiqué. Mais quelque part, c'est comme s'il faisait fi de la justice, quoi.
Mais pas du tout, justement. Justement pas. Parce que ce qu'il aurait pu faire, David, il aurait pu, comme tu dis, tenir compte de la surface financière du bonhomme et dire, bon, ben, tu payes pas puisque tu n'as pas. Et je ne te condamne pas. Non, je te condamne parce que ce que tu as fait mérite une condamnation. Et le tikkun, la réparation, elle a lieu lorsque tu répares en restituant ou en dédommageant celui que tu as endommagé. Il faut que toi, l'endommageur, tu restitues, tu dédommages celui que tu as endommagé.
Juste une même question. Là, on est en cas de Joachim qui fout la loi et qui l'applique.
Il n'y a pas de séparation des pouvoirs chez nous. Il reste donc la question qu'on avait posée initialement, n'est-ce pas ? Pourquoi finalement, puisqu'on a mieux que les korbanot, pourquoi on nous a bichlal donné les korbanot ? Qu'est-ce que vous pensez ?
C'était une étape nécessaire.
Expliquez.
Pour qu'on puisse faire ces affaires d'une femme comme il faut, il fallait d'abord passer par des femmes corbanotes. Vous savez que corbanotes ne durerait pas, mais c'était nécessaire pour qu'on puisse arriver au niveau.
C'est bien, mais seulement vous ne répondez pas à la deuxième question. Que même quand on pratiquait les corbanotes, ça ne marchait que sur le shogeg. Et si tu voulais avoir une kapara pour le mezid, il fallait mishpat ou tzedaka.
Oui, justement, on ne savait pas le faire.
Un petit peu compliqué parce que c'était sous Shlomo HaMelech par exemple.
Pardon?
C'était sous Shlomo HaMelech.
Oui.
Donc ça veut dire quoi? On n'avait pas le niveau avec Shlomo HaMelech, on n'avait pas le niveau?
Non, dans Shlomo c'est justement ça que je cherchais. Ce qui est compliqué aussi, c'est quand la Torah nous dit je veux mettre un atel en quoi? Alors que Shlomo HaMelech,
non, pas. Donc ça c'est parce qu'il voulait. Vous voulez un roi comme les autres rois.
Oui, justement.
Mais Shlomo, parce que.
Pour faire comme les autres.
Oui.
C'est la Torah qui nous dit, c'est une mitzvah.
Non, il y a une mitzvah, si tu veux, alors. Il y a une mitzvah de donner un guet à une femme si on veut s'en séparer, il n'y a pas de mitzvah de donner un guet. Dans l'absolu. Si tu veux te séparer d'une femme, il y a une mitzvah de donner un guet. Tu veux un roi, alors je te donne la mitzvah, comment tu vas te désigner un roi? Mais si tu veux un roi, bon, c'est on est peut-être, c'est peut-être ça que vous voulez dire, on est dans un moindre mal, quoi. Quelque part, tu veux un roi, alors on va limiter, tu prendras pas un étranger, tu prendras pas, etc. Je vais te mettre quand même des règles. Bien que je ne...
Mais
bien
qu'en...
Oui, la Torah dit. La Torah dit, puisque elle tient là aussi compte en quelque sorte, comme on a dit, etc., sur la Yefatoar, sur la prisonnière. Il y a un Yetzerara, tu veux, c'est pas bien. Ce Shmuel leur dit, vous allez souffrir avec un roi, c'est pas à votre intérêt, parce qu'ils avaient un roi. Moshe Rabbeinu était roi, Yoshua était roi, Shmuel était roi, seulement ils n'étaient pas des rois avec une cour. C'est marqué, Vahi Bishurun Melech, c'est Moshe Rabbeinu. Ils étaient tous rois, mais pas un roi. C'était un roi qui était au service du peuple et pas un peuple au service du roi. Ce que Shmuel leur dit, c'est que vous allez être au service du roi. Il va faire des guerres à tour de sera parce que pour ceci, pour cela, etc. Il va vous ruiner. C'est ce qui s'est passé. Ça n'a pas fait très longtemps. Ça n'a pas pris longtemps pour ça. Alors, Shlomo HaMelech, il a déjà mis des impôts pas possibles. Et quand à la mort de Shlomo, on est allé chez son fils Rehoboam, et les anciens lui ont dit, écoute, ton père, il a exagéré, il faut que tu prennes un truc de rigueur. Il a dit, au contraire, je vais en faire encore plus. Et ça, qu'est-ce que ça a donné? Le schisme. Bon, c'est chez lui. Parce qu'il a voulu mettre encore plus d'impôts, on lui a enlevé 10 des 12 tribus, enfin 9 tribus et demi, qu'on a donné à Yerovam. Et on a dû, le royaume d'Israël, le royaume de Juda, etc., avec... on a perdu, à terme, on a perdu 10 tribus. Tout ça parce qu'il voulait un roi. Et que ce roi, c'est difficile de garder la mesure. Même Shlomo, de cette manière, c'était ça.
Mais justement, on voit là qu'il n'avait pas les niveaux. Mais ça. Qu'il leur reproche. Vous avez déjà un roi, je vais repousser votre roi. Et en plus, vous demandez un roi pour faire comme les autres.
Oui, non, mais ici, on parle des corbanotes.
Oui.
Donc vous voulez dire, je suis assez d'accord, vous voulez dire que c'est vrai qu'il y avait mieux, mais que même si c'était pas aussi efficace, les corbanotes c'était plus facile. C'est une espèce de concession. Ça va toujours dans le même sens que le Rambam, etc., qui dit c'est une concession par rapport à Avodah Zara, mais c'est aussi concession par rapport aux gens alentour. Le Rambam, quand il apporte cette psikta, ce texte qui dit que c'est une concession à l'esprit du temps, en quelque sorte, d'apporter les corbanotes, et que, bon, l'idéal, ce serait de ne pas en apporter, quoi. Bah, ici aussi, on pense comme ça. C'est pas dit qu'on ne veut pas les corbanotes, mais dit que les corbanotes, c'est vraiment pas ça, quoi. Non, c'est pas assez efficace, ça marche pas tout le temps, ça a plein de...
Les corbanotes, ça implique aussi les autres, que la tzedaka, ça n'implique que soi. Ça veut dire, c'est de trouver sa solution.
Non, le contraire, je dirais. Le corban, c'est un truc où ça touche ta relation avec Hachem. Tandis que la tzedaka, au contraire, c'est ta relation avec les autres. Et le mishpat, c'est par définition une...
Ça veut dire qu'on compte sur soi pour pouvoir... qu'on ne compte pas sur les autres pour résoudre les choses. C'est son implication à soi de modifier les choses.
Le corban.
Non, la tzedaka.
Non, dans la tzedaka, je m'occupe de l'autre, en fait. La tzedaka, c'est que je fais régner la justice, tandis que le corban, c'est un truc, je ne suis pas en ordre, alors j'apporte un corban, mais ça ne résout pas les problèmes quand on a lésé quelqu'un, apporter un corban, ça ne le fait ni chaud ni froid.
C'est moi qui décide de modifier les choses.
Oui, mais c'est pas vraiment moi, parce que comme c'est prescrit, la tzedaka c'est prescrit. Tu dois faire la tzedaka. Il y a une mitzvah de tzedaka. Il y a une mitzvah de faire des dinim. Les mishpatim, c'est une mitzvah. On a l'obligation, même les goyim, ils ont une obligation de mishpat. Maintenant, on a vu ce problème. Pourquoi il ramène ces trucs, ce Rav Shmuel Ben Nachmani, il amène l'histoire de l'histoire du Beth Amikdash avec David? que c'est pas lui qui va construire le Bétamigdash, c'est ça, qu'est-ce que ça a à voir avec, avec ce dont nous parlons maintenant? Est-ce que ça n'a rien à voir avec, avec Mishpat et Tzedaka pourtant, non? Après, bon, il fera le Beit HaMikdash, mais on a porté les Korbanot avant le Beit HaMikdash. On a porté à Shiloh, ailleurs, on a porté les Korbanot. On apporte le problème ici de David, l'histoire de qui c'est pas lui qui va construire.
Parce que justement, parce que Hachem nous dit que c'est plus important que vous appreniez, pour moi, c'est plus important que vous appreniez à savoir vivre avec l'autre que vous fassiez une maison. C'est très bien que vous fassiez une maison.
Mais... Alors, vous lisez que toute cette histoire-là n'est là que pour dire que pour la fin, vous avez peut-être raison. Que pour simplement sache qu'en réalité Hatzdaka ve'adinim she'ata oseh chavivin alayim mi-Bet HaMikdash, c'est pour moi beaucoup plus précieux que le Bet HaMikdash. Donc l'introduction, le passage par qu'il s'est disqualifié, etc., c'est l'introduction pour puisque il faut introduire le c'est pas toi qui va construire et qu'éventuellement toute cette histoire-là, elle n'est pas compréhensible si on n'introduit pas le problème par ce biais-là. Donc c'est encore une autre façon de dire, où Hachem dit explicitement à David, qu'en réalité, je préfère ça au Beit HaMikdash. Je préfère la tzedaka et les dinim que tu fais au Beit HaMikdash. Intéressant ici, c'est pas du tout David comme à cause des Smirot, à cause des Teilim, etc. Mais c'est la Tzedaka et le Mishpat. Alors ce qui est intéressant, c'est que on présente justement la façon de faire de David dans la Tzedaka, dans Mishpat et Tzedaka, comme moi, c'est extraordinaire. Je me dis attention, hein, surtout ne t'imagine pas que c'est un bon truc, parce que ça entraîne les Bnei Israël à la tromperie. C'est-à-dire que même quand on veut vraiment faire, bien faire, quand on pense et il fait les choses, mais comme si il y a toujours un problème, quoi. Il y a toujours, tu veux faire mieux que tout, il paye de sa poche, c'est tout ce que tu veux. Attends, t'as pas trouvé c'est pas la panacée, hein. T'as pas trouvé une solution pour qui marche, qui résout tous les problèmes. Parce que les gens vont tromper. C'est-à-dire peut-être que ça nous aide à comprendre. C'est vrai que les korbanot, ça résout pas tous les problèmes. Mais peut-être que, comme c'est très difficile de faire à la fois Mishpat et Tzedaka, à cause de ça, parce que même quand tu veux faire Mishpat et Tzedaka à la David, ben, tu n'échappes pas à ce problème-là, parce que si tu fais une solution, si tu crées une société dans laquelle c'est de la corruption, quoi. Les gens vont. Enfin, Ramaout, ça veut dire quoi, la ruse, ils vont ruser, etc. Fausses déclarations, etc. C'est encore pire. Donc la solution, elle est extraordinaire, mais ça comme Mishpat, mais concrètement, on est embêté. Alors il faut dire que non, Tzedaka, c'est pas qu'on fait Tzedaka et Mishpat. C'est vraiment. Peut-être que c'est le remède à ce que je vous ai dit, c'est que ici. Mishpat Tzedek, le Tzedek est un adjectif ici, c'est un qualificatif du Mishpat. Ici on retombe là-dessus, c'est un qualificatif du Mishpat. Ça va jusqu'au bout du Mishpat, c'est-à-dire tu prends là où ça ne doit pas être et tu le mets au bon endroit. D'accord. Et pas que toi tu vas donner de la tzedaka, etc. Parce que ça, si on lit comme ça, alors on amène les gens à la Ramaout. Voilà, on va s'arrêter là. Bien. On a tout juste une ligne, c'est ça?